Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson.
Traduction Lena Grombach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Bocquillon.
Il me faudrait une sorte d'assistant de recherche.
J'ai la personne qu'il te faut.
Qui ça?
C'est celle qui a enquêté sur toi.
Qui a quoi?
Je veux que tu m'aides à identifier un meurtrier. J'ai quand même une condition, que je ne te retrouve plus dans mon ordinateur, c'est d'accord?
C'est d'accord.
Tu ne m'abandonnes pas?
Mais non.
Moi aussi j'en ai des principes. J'appelle ça le principe de Salander. Je vais t'expliquer ce que c'est.
Quand je suis rentré tout à l'heure, je me suis rendu compte que quelqu'un s'était introduit chez moi.
Pour moi, un fumier est toujours un fumier. Et si je peux lui nuire en déterrant des saloperies sur lui, je vois pas pourquoi je me gênerais.
Maintenant, quelqu'un sait que j'ai décrypté le code.
9e épisode.
Mon vieux Google, va falloir que tu te mettes en quatre. Mot-clé. Magda plus meurtre. Ça t'inspire? Ça y est. Ça tombe comme des feuilles en automne. C'est quoi ça? Programme télé de 99. Un nouvel épisode de la série Meurtre dans le Vermont s'attache au cas de Magda Lovisa Sjöberg, un meurtre mystérieux et abominable qui mobilisait la police de Karlstad il y a plusieurs dizaines d'années. En avril 1960, la fermière Lovisa Sjöberg, 46 ans, fut retrouvée assassinée de la manière la plus brutale dans l'étable de sa femme. Le reporter Klaas Koenaerts retrace ses dernières heures et la chasse infructueuse du meurtrier. Ah. Là, il y a des détails. C'est son mari, le bûcheron Holger Sjöberg, qui a retrouvé sa femme en rentrant chez lui après le travail. Elle avait été victime de violences sexuelles aggravées, poignardée et finalement tuée avec une fourche. Le meurtre avait lieu dans l'étable de la famille, mais ce qui avait créé le plus d'émoi était que son forfait accompli, le meurtrier l'avait attaché, agenouillé dans un box de cheval. Plus tard, on découvrit qu'une des bêtes de la ferme, une vache, avait été blessée d'un coup de couteau à l'encolure. Au départ, le mari fut soupçonné, mais il pouvait présenter un alibi tout à fait solide. Qu'est-ce qu'ils disent déjà dans le verset pour Magda? La femme qui s'approche d'un animal quelconque pour s'accoupler à lui, tu tueras la femme et l'animal. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. Bon. Une paysanne prénommée Magda, propriétaire d'une étable, est trouvée assassinée et son corps mis en scène, attaché dans un box à cheval. Mais ça colle. Je crois que cette enquête va être plus facile que prévu.
On en est déjà à 5. Personne ne les a reconnus. C'est déprimant.
On en a encore 4 à voir. Il suffit d'un seul.
Je commence à me demander si ça va donner quelque chose. Pour peu que le type sur la photo n'ait aucun rapport avec la menuiserie.
Ah, c'est fort possible. Arrêtez-vous là, devant la ferme. On est chez Henning Forsman. C'est un menuisier à la retraite.
Je vous laisse aller lui demander, j'ai pas le courage.
Blomqvist. Voilà, Henning Forsman. Il connaît votre bonhomme.
Génial, vous êtes sûr?
Ah ouais.
C'est qui?
Gunmar. Ben, c'est le fiston d'Assar Brandlung.
Ah oui, c'est le gamin d'Assar. Mmh. Il travaillait pour les mines de Boliden. Mmh.
Et je peux le trouver où?
Ah, il va falloir que vous creusiez. Il est mort dans une explosion au milieu des années 70.
Oh merde.
Oui, mais alors sa femme est toujours en vie. Celle-là, sur la photo. Elle s'appelle Mildred, elle habite à Bursel.
Bursel.
Oui, ben, vous suivez cette route, c'est à une dizaine de kilomètres. Vous verrez, elle habite la bicoque rouge, là, tout en longueur du côté droit, quand vous arrivez au village, la troisième maison.
Bonjour. Je m'appelle Lisbeth Salander. Je suis en train de faire une thèse de criminologie sur la violence à l'égard des femmes au XXe siècle. J'aurais aimé savoir s'il était possible de consulter des documents concernant une affaire de 1957. Il s'agit du meurtre d'une femme de 45 ans, du nom de Raquel Lund. Vous savez où ces documents peuvent se trouver aujourd'hui ?
Edelstadt, ça vous dit quelque chose ?
Oh, Edelstadt, ça me paraît loin. On était en voyage de noces. On était allé à Stockholm et à Sigtuna en voiture. Et on était sur le chemin du retour et on s'est arrêté dans ce village.
Attendez, cette photo a été prise vers 13h. Ça fait un moment que j'essaie de vous identifier, ça n'a pas été très facile.
Mais je ne sais même pas comment vous avez fait.
C'est grâce à cette autre photo, là, qui a été prise un peu plus tard dans la journée. Regardez. On voit votre voiture et l'autocollant de la menuiserie où travaillait votre beau-père.
Ah oui, mais dites donc, vous devez avoir une bonne raison pour vous démener comme ça.
Quand vous avez pris votre photo, il y avait une jeune fille sur le trottoir à côté de vous. Elle s'appelait Harriet. Elle a disparu ce jour-là et pas mal de gens pensent qu'elle a été tuée. Et je vais vous la montrer. J'ai les photos dans mon ordinateur. Là. Vous voyez ? J'ai regardé ces vieux clichés et je vous ai repéré. Je me suis dit que vous aviez peut-être gardé les photos que vous aviez prises ce jour-là.
Bien sûr. Qui ne garde pas les photos de son voyage de noces ? Attendez, je vais voir. Alors, 65, non, ça va pas. 63, voilà, c'est ça. Voilà, il y a trois photos d'Edelstadt. Et là, c'est la rue principale. Malheureusement, elle est floue.
Ah, non, c'est pas celle que je cherche.
Là, c'est mon mari. Il était beau, non ? Et là, c'est le défilé. J'avais pris les clowns. Oh, je m'en souviens maintenant.
On voit quelqu'un de l'autre côté de la rue. Il semble vous regarder.
Ah oui ? Oh, j'avais jamais remarqué. Vous le connaissez ?
Non, justement.
En juin 1962, une prostituée de 32 ans, Léa Persson de Göteborg, s'est rendue à Uddevalla pour voir sa mère et son fils de 9 ans. Quelques jours plus tard, Léa a embrassé sa mère, dit au revoir à son fils et est partie pour la gare prendre le train du retour. On l'a retrouvée 2 jours plus tard, derrière un conteneur abandonné, dans une friche industrielle. Elle avait été violée et son corps avait fait l'objet de sévices particulièrement brutaux. Je comprends pas. Mais il n'y a pas de Léa dans la liste d'Harriet. À environ 10 mètres de l'endroit où le corps de Léa fut retrouvé, on a découvert un pot de fleurs avec un pigeon dedans. Quelqu'un avait mis une ficelle autour du cou du pigeon, puis l'avait tiré par le trou au fond du pot. Ensuite, on avait placé le pot sur un petit feu entre deux briques. Oh. Ça pourrait vraiment coller, ce genre d'histoire. Faut que je trouve une Bible en ligne. Purification de la femme accouchée. Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un pour l'Holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée. Mon cher Michael, je crois que la liste d'Harriet est loin d'être complète.
Ah, Michael.
Salut, Dirk.
Entre.
Comment va Henrik ?
Assieds-toi, je t'en prie. Beaucoup mieux.
Il est toujours faible, mais maintenant il peut s'asseoir dans son lit. Son état n'est plus considéré comme critique.
Je suis très content.
Alors, ce voyage dans le Grand Nord ?
Je te raconterai plus tard. Pour le moment, je voudrais te demander quelque chose.
Quoi ?
Qu'est-ce qui se passe avec Millennium si Henrik disparaît ?
Rien de particulier. Martin prendra son siège dans votre conseil d'administration.
Si je n'arrête pas d'enquêter sur la disparition d'Harriet, est-ce qu'il y a un risque, même hypothétique, que Martin crée des problèmes ?
Que s'est-il passé ?
Il est venu me voir, en me menaçant à demi-mot de se retirer du journal si je poursuivais l'enquête. Après, il a appelé Erika pour essayer de la convaincre de me faire revenir à la rédaction.
Je suppose que Cécilia est allée lui bourrer le crâne. Mais je ne pense pas qu'il jouerait à ce petit jeu de donnant-donnant. Il est beaucoup trop honnête pour ça. De toute façon, moi aussi, je siège au conseil d'administration de la société annexe qui a été fondée au moment d'entrer dans Millennium.
Donc d'après toi, il n'y a rien à craindre ?
Les contrats sont faits pour être respectés. Je travaille pour Henrik. Lui et moi sommes amis depuis 45 ans. Et nous fonctionnons à peu près de la même façon sur les affaires. Si Henrik venait à disparaître, il se trouve que c'est moi, et non pas Martin, qui hériterait de sa part dans la société annexe. De plus, nous avons un contrat bien ficelé stipulant que nous nous engageons à renflouer Millennium pendant 4 ans. Si Martin avait envie de nous mettre des bâtons dans les roues, ce que j'ai du mal à croire, il pourrait à la rigueur faire fuir un petit nombre de nouveaux annonceurs.
Annonceurs qui sont la base même de l'existence de Millennium.
Oui, mais s'adonner à de telles bassesses prend du temps et de l'énergie. Martin est en train de se battre pour sa survie industrielle. Il travaille 14 heures par jour. Je ne pense pas qu'il lui reste grand-chose à consacrer à ce genre de broutille.
Le groupe Wenger est en si mauvais état ?
Il est dans une mauvaise passe. Il vient de perdre 2 grandes commandes dans l'industrie électronique. Il est en train d'être éjecté du marché russe. En septembre, nous serons obligés de licencier 1600 salariés. Pas terrible comme cadeau pour des gens qui travaillent pour le groupe depuis de nombreuses années.
Martin Wenger est donc sous pression ?
Il tire la charge d'un bœuf tout en marchant sur des œufs.
En tout cas, si tu le vois, dis-lui que je n'ai pas l'intention de retourner à Millennium. Pas avant d'avoir terminé ma mission ici.
Salut Dirk. Tu prends le frais ? Tiens, je peux te prendre ta bouteille d'eau.
Ah, merci.
Tu es sûr que c'est bon pour la santé, avec la chaleur qu'il fait ?
Je te dirai ça dans quelques années.
Je suis content de te voir, je voulais te parler.
Vas-y.
Je me suis trompé. Ce n'est pas Cécilia qui harcèle Martin, c'est Isabella. Elle est en train de mobiliser le clan Wenger pour te plonger dans du goudron et te couvrir de plumes. Et si possible, te brûler sur un bûcher. Elle est soutenue par Birger.
Isabella ?
Elle n'aime personne. Tu n'as pas de chance. En ce moment, on dirait que c'est toi qu'elle a dans le collimateur. Elle raconte que tu es un escroc qui a persuadé Henrik de l'embaucher et qu'il l'a excité au point qu'il en a fait un infarctus.
Je comprends pas pourquoi elle me hait. Alors que j'essaie de trouver ce qui est arrivé à sa fille. Si j'étais à sa place, je serais heureux de retrouver espoir. Ou d'avoir des réponses à mes questions.
Tiens ! Je crois que Mademoiselle Salander vient d'entrer dans la danse. Tu ferais mieux d'y aller.
À plus tard. Salut.
Salut.
Je suis content que tu sois venu. Allez, viens, je vais te montrer la maison. T'as faim, dis-moi. Tu l'aimes bien, ma cuisine ?
5+3.
Pardon ?
Il y a les 5 meurtres de la liste d'Harriet. Plus 3 que moi j'ai trouvé.
Raconte.
Tiens. Je t'ai fait un dossier. Ouais, je sais, 500 pages à se farcir, mais il y a tout. Si tu veux, je t'ai fait un résumé, page 2.
1949, Rebecca Jacobson, Edelstadt, 3-01-12. 54, Marie Holmberg, Kalmar, 3-20-18. 57, Raquel Lunde, Landskrona, 3-20-27.
Apparemment, c'est le cas de Rebecca Jacobson qui est le premier, en 49. T'en connais les détails. Après, il y a eu Marie Holmberg, une prostituée de 32 ans de Kalmar, qui a été tuée chez elle en octobre 54. On ne sait pas exactement quand, puisqu'elle a été découverte 9 ou 10 jours après.
Comment tu fais le lien avec la liste d'Ariette ?
Elle était ligotée et son corps couvert de blessures terribles. Mais la cause du décès était l'asphyxie. L'assassin avait enfoncé une serviette hygiénique dans sa gorge.
Attends, je regarde. 20e chapitre du Lévitique, verset 18. L'homme qui couche avec une femme pendant ses règles et découvre sa nudité. Elle a mis à nu la source de son sang. Elle-même a découvert la source de son sang. Aussi, tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple.
Tu vois, Ariette a fait le lien. Bon, alors le cas suivant. Mai 57, Raquel Lund, 45 ans. Elle était femme de ménage et passée pour une sœur d'originale dans la région. Elle était diseuse de bonne aventure. Son hobby, c'était de tirer les cartes, lire dans les mains, des conneries comme ça. Elle habitait à côté de Landskrona, dans une maison assez isolée où elle a été tuée au petit matin. On l'a retrouvée nue et attachée à un séchoir à linge, dehors dans sa cour, la bouche scotchée. On avait projeté sur elle une lourde pierre et à plusieurs reprises. Elle avait de nombreuses contusions et fractures.
Quelle horreur.
C'est que le début. Hein. Les initiales RL coïncident. Tu trouves la citation ?
Oui. L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromant ou devin, ils seront mis à mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux.
Ensuite, elle le visait à Sjöberg, de Ranmo, près de Karlstad. C'est elle qu'Ariette désigne sous le nom de Magda. Son nom complet était Magda Lovisa, mais tout le monde l'appelait Lovisa.
Continue.
Le cas suivant sur la liste d'Ariette est Sarah. Je l'ai identifiée comme Sarah 8, 37 ans, domicilié à Ronneby. Elle a été tuée en janvier 64. On l'a retrouvée attachée dans son lit. Elle avait fait l'objet de graves sévices sexuels, mais la cause du décès était l'asphyxie. Elle a été étranglée. Le meurtrier a aussi allumé un incendie criminel. Il voulait que toute la maison brûle, mais pas de bol. Le feu s'est éteint de lui-même. D'ailleurs, les pompiers sont arrivés très vite sur les lieux.
Et le lien, là, c'est quoi ?
Mais Sarah Witt était fille de pasteur et épouse de pasteur. Son mari était en déplacement, justement ce week-end-là.
Si la fille d'un homme qui est prêtre se profane en se prostituant, elle profane son père et doit être brûlée au feu. Ben oui, ça colle avec la liste. Tu dis que tu as trouvé d'autres cas ?
Oui. J'ai trouvé 3 autres femmes. Elles ont été tuées dans des circonstances tellement tordues qu'elles devraient figurer sur la liste d'Ariette. Le premier cas est une jeune femme du nom de Liv Gustafsson. Elle avait 22 ans et habitait à Farsta. C'était une passionnée de chevaux. Elle avait aussi une petite animalerie avec sa sœur. On l'a trouvée dans la boutique. Elle était restée pour faire sa comptabilité et elle était seule. Elle a dû faire entrer le meurtrier de son plein gré. Elle a été violée et étranglée.
Ça pourrait être un meurtre ordinaire.
Non. Le meurtrier a terminé son affaire en enfonçant une perruche dans son vagin. Puis après, il a libéré tous les animaux de la boutique. Des chats, des tortues, des souris blanches, des lapins, des oiseaux, même les poissons de l'aquarium. T'imagines le spectacle qu'a découvert sa sœur le lendemain ? Elle a été tuée en août 60. 4 mois après le meurtre de la fermière Magda Lovisa à Karlstadt. Dans les deux cas, il s'agit de femmes que leur métier met en contact avec des animaux. Et dans les deux cas, il y a eu des sacrifices d'animaux. Bon, la vache à Karlstadt a survécu, c'est vrai. Mais j'imagine que c'est assez difficile de tuer une vache avec juste un poinçon. Une perruche, c'est plus facile. Sans compter qu'il y a un autre sacrifice d'animal.
Lequel ?
Le meurtre au pigeon de Léa Persson à Uddevalla. Ah, il y a un dernier cas, en février 66 à Uppsala. La victime était une lycéenne de 17 ans qui s'appelait Lena Andersson. Elle a disparu après une fête de sa classe et on l'a retrouvée 3 jours plus tard, dans un fossé assez loin de la ville. Elle a été tuée ailleurs et transportée après sa mort. On l'avait torturée avec du feu. Ses mains et ses seins étaient grièvement brûlés et tout son corps était couvert de brûlures à différents endroits. Ils ont trouvé des taches de stéarine sur elle. C'est la preuve que ça avait été fait avec une bougie. Par contre, ses mains, qui étaient complètement carbonisées, avaient dû être maintenues dans un feu plus important. Alors pour finir, le meurtrier a scié sa tête et l'a lancée à côté du corps.
C'est horrible.
J'ai aucune citation biblique qui colle. Mais il y a plusieurs passages qui parlent d'immolation et de sacrifice pour le péché. Il y a quelques endroits, il est préconisé que l'animal de sacrifice, et c'est en général un taureau, soit dépecé de manière à ce que la tête soit séparée de la graisse. Et l'utilisation du feu rappelle aussi le premier meurtre, celui de Rebecca ici à Eddestadt.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ?
Soit Harriet avait un drôle de hobby, qui consistait à prendre des citations bibliques et à les associer à des meurtres dont elle avait entendu parler, soit elle savait qu'il y avait un lien entre ces citations et les meurtres.
Il y aurait donc eu un meurtrier fou furieux avec une Bible sous le bras qui aurait tué des femmes pendant 17 ans entre 49 et 66 sans que personne ait fait le rapprochement entre les meurtres. Ça paraît incroyable.
On voit que tu t'intéresses pas beaucoup à ce que subissent les femmes. Rien qu'au XXe siècle, il y a eu en Suède plusieurs douzaines de femmes qui ont été assassinées sans qu'on trouve le coupable. Et puis les meurtres d'Harriet ont été commis sur une très longue période et à des endroits très dispersés dans le pays. Par contre, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Des animaux, du feu, des violences sexuelles aggravées et comme tu l'as dit, une parodie des connaissances bibliques. Mais aucun enquêteur de la police n'a interprété les meurtres en partant de la Bible.
C'est vrai qu'on a du mal à voir le rapport entre une prostituée d'Uddevalla assassinée derrière un conteneur dans une friche industrielle et l'épouse d'un pasteur à Ronneby étranglée et victime d'un incendie criminel. À moins d'avoir la clé qu'Harriet nous a donnée, la Bible.
Ce qui nous mène à la question suivante.
Comment Harriet, une fille de 16 ans qui vivait dans un milieu plutôt protégé, a-t-elle bien pu être mêlée à cette merde ?
Il n'y a qu'une réponse.
Je sais.
Il y a un lien avec la famille Wenger.
C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenin.
Adaptation et dialogue Sophie Bocquillon, musique composée et dirigée par Krishna Levy.
9e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Thierry Bosque, Dirk Freude.
Et les voix de Fred Persson, Jacques Marchand, Annie Mercier et Neta Lando.
Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation, Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe.
Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs.